Un instant en compagnie des Cranberries, cet orchestre irlandais, et leur chanteuse Dolores O'Riordan, qui a écrit les chansons que vous entendez en ce moment. Vous êtes toujours dans Onde Femme, Radio Zone 93.8. Pour terminer cette émission de Remue Ménage, eh bien, je voulais attirer votre attention sur un certain nombre de possibilités de sortie en spectacle ou en cinéma ou en exposition qui ont attiré mon attention parce que ce sont des femmes, mais des femmes que d'ailleurs je rêverais de pouvoir accueillir dans notre studio. Eh bien, en ce moment, tout en ce moment, et je crois qu'il faut quand même relativement vous dépêcher d'y aller, bien que apparemment, elle, puisque... Il s'agit du succès d'une femme. Elle, à savoir Aude Vermeil, a beaucoup de succès puisque j'ai voulu aller voir le film qu'elle vient de réaliser, qui est en ce moment montré au cinéma Scala à Genève tous les jours à 18h15. Et la séance était complète. Oh, ma déception fut grande. Alors, je vous en parle quand même parce qu'on m'a assuré que le film allait être montré encore pendant quelques jours et peut-être encore, puisque ça marche si bien, peut-être beaucoup de jours, nous le lui souhaitons. Alors, Aude Vermeil, c'est une jeune réalisatrice qui a 30 ans. Elle avait ses études aux Beaux-Arts de Genève, dans la section cinéma, et elle participe à de nombreux tournages collectifs, parce qu'elle a une vision très particulière, à elle, du travail de cinéma. Elle signe des courts et des moyens-métrages, par exemple, qui a pour titre « Je vais et je viens », qui a reçu une prime à la qualité de l'État de Genève. Et tous ces films procèdent d'une démarche très atypique, en ne construisant jamais leur trame à partir d'une narration linéaire habituelle. Aude joue avec le langage du quotidien, un autre langage, pour nous donner à voir ce qui apparaît au-delà des mots et ce qui fait sens en plus du contenu même d'une banale conversation. Alors ce sont là les prémices de la construction de son long métrage que vous pouvez voir en ce moment au cinéma Scala, qui a pour titre « Corps et âme », qui lui aussi conduit à voir au-delà des apparences. Et par un choix tout à fait délibéré, elle travaille avec des acteurs non professionnels qui sont acquis à sa technique de mise en scène particulière. La plupart des acteurs de Corps et âme avaient déjà participé à ses précédents films. Alors, de quoi parle Corps et âme ? Ce film est bien très intimiste. Il évoque les relations de couple. Les protagonistes dévoilent le rapport qu'ils ont avec leur corps, leurs émotions, que la sexualité les amène à découvrir, celles qui déroutent, bouleversent, rendent les relations humaines riches, inattendues. On se découvre sûrement un peu soi-même, alors que l'autre y demeure souvent très mystérieux. Alors le film réaliste, pudique, parce qu'il n'y a pas d'image que l'on ne voudrait pas voir, parce que c'est, selon Aude, difficile à montrer au cinéma, mieux vaut se les imaginer. Eh bien, malgré ce sujet peut-être un peu sulfureux, eh bien tout cela, le film nous promène dans finalement nos propres espaces secrets, avec gravité ou légèreté, selon les séquences. Alors, ça c'est elle qui l'écrit, c'est d'autres gens qui le disent. À vous d'aller voir le film lui-même, je répète, Corps et âme, au cinéma Scala à Genève, tous les jours, à 18h15.
Je suis triste le matin.
Je suis triste, je suis triste, je suis triste le soir.
La radio, la radio joue, la radio joue, les parades.
La radio joue, la radio joue, la radio joue la guerre.
Et j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié, et j'ai crié Aline. Et j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié, et j'ai crié Aline.
Je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie toute seule au lit.
Ich warte nicht mehr lang auf dich.
Et je vois, et je vois, et je vois beaucoup ce soir.
Et j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié, et j'ai crié Alina.
Et j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié, et j'ai crié Alina.
Propre fille.
Et elle fait, et elle fait son thé.
Gertrude Stein, Gertrude Stein, Gertrude Stein est mon amie.
Et elle joue, et elle joue avec mes chenoux.
Et j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié, et j'ai crié Aline.
Et j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié, et j'ai crié Aline.
Et mes cheveux, sont rasés.
Le cheval, et le cheval est disparu.
Le tigre l'est, mangé.
Le soleil, se couche.
Et j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié, et j'ai crié Aline.
Et j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié.
J'aime la vie en rouge.
Et les couleurs, les couleurs.
Vous les aurez certainement reconnues, les femmes qui chantent en ce moment, ce sont les reines prochaines. Et parmi elles, Pippi Lottiriste. Pippi Lottiriste, la blonde platinée, qui est d'ailleurs, qui joue de toutes sortes d'instruments, comme toutes les amies qui forment le groupe de, des reines prochaines. Pippi Lottiriste, elle, elle a plusieurs visages. Si elle est blonde platinée dans cet orchestre, elle est aussi parfois en salopette, en train de visser et d'arranger des écrans de télévision. Pourquoi ? Parce qu'elle est aussi vidéaste. Et vous pouvez découvrir son travail en ce moment au musée d'art et d'histoire de Genève, de rue Charles Galland, mardi, ouvert du mardi au dimanche de 10h à 17h, et ceci jusqu'au 26 février. Et le travail de Pippi Lottiriste a beaucoup d'intérêt en, en tant que vidéaste aussi, puisqu'elle s'appuie sur l'image que la femme donne dans la société, l'image qu'on veut lui faire donner, et l'image qu'elle a décidé de découvrir ou faire découvrir. Alors, nous espérons beaucoup pouvoir recevoir Pippi Lottiriste à notre antenne d'ici au 26 février. Elle m'a promis, je l'ai croisée en quatrième vitesse un jour à la fin d'une émission de télévision, elle m'a promis qu'elle reviendrait à Genève, qu'elle m'appellerait. Donc, j'espère vivement qu'elle tiendra sa promesse et que nous pourrons la recevoir dans notre émission. Et puis, autre exposition, parce que tout à coup, il semblerait que les vénérables institutions que sont les musées se dévergondent et ils accueillent toutes sortes de gens qui sont un peu hors normes, et en plus des femmes. Alors, au miracle, précipitons-nous. À Lausanne, cette fois-ci, au musée cantonal des Beaux-Arts, eh bien, on accueille une autre artiste qui s'appelle Sophie Kahl, qui fait un travail très étrange. Sophie Kahl, elle, a décidé de poursuivre les gens, de les observer et ensuite d'utiliser ce qu'elle a vu enregistrer et pied pour en faire un propre travail. Je raccourcis peut-être un peu beaucoup son, son idée, mais je crois que c'est quand même cela l'idée. Et le travail qu'elle montre à Lausanne s'appelle « Absence ». Et en l'occurrence, c'est une sorte de déambulage dans les souvenirs de tableaux disparus et de regards disparus. Regard perdu aussi, celui des aveugles de naissance que Sophie Calle interroge sur ce qu'ils voient et sur leur sens de la beauté. Et là, c'est une enquête tout à fait émouvante et profondément poétique qu'elle nous livre. Et pour poursuivre son travail, eh bien, par exemple, il arrive à Sophie Calle d'inviter ses amis et de lui dire « Vous amenez chacun un inconnu, mais attention, pas n'importe qui, puisque cet inconnu doit encore une fois de plus pouvoir susciter sa curiosité qui est inlassable et sans fin. » Vous pourrez aussi découvrir toutes les histoires d'espionnage et d'observation qu'elle a faites en lisant un livre qu'elle a écrit qui s'appelle « Des histoires vraies » qui sont publiées aux éditions Actes Sud. Voilà, donc je répète, Pipi le tiriste au musée d'art et d'histoire à Genève jusqu'au 26 février. Sophie Calle au musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne jusqu'au 5 février. Et puis, si vous ne savez toujours pas quoi faire, eh bien, vous pouvez toujours aller voir le spectacle des Bazors, de la compagnie des Bazors. Mais Anacolute, mais je suis sûre que Marjolaine vous en a parlé ou vous en parlera dans ses coups de cœur tout à l'heure à 19h, après les informels qui vont apparaître avec la lune dans vos oreilles d'ici quelques instants. Et puis... encore dernier spectacle possible, eh bien c'est un film aussi qui s'appelle Badgie on the Beach et c'est un film magnifique réalisé par une réalisatrice indienne qui évoque les femmes indiennes qui vivent à Londres avec tout le poids de la tradition des femmes indiennes du pays qui sont gardées bien sûr quand on émigre et puis quand même ce vent de folie quand parfois heureusement les plus jeunes sont confrontés à une autre culture et découvrent d'autres choses, vivent d'autres problèmes. C'est à la fois bien sûr grave et tragique parce que ces femmes ne vivent pas des choses drôles, bien sûr, face au poids des hommes dans leur vie de tous les jours. Mais c'est aussi drôle et humoristique parce qu'elles découvrent tout à coup la folie en s'embarquant dans un bus et en allant passer une journée dans la ville la plus kitsch, j'en suis sûre, de l'Angleterre, Blackpool, au bord de la mer, où elles découvriront tout à coup qu'elles peuvent vivre plein d'autres choses. Viviane, encore autre chose à proposer ?
Moi, j'ai vu un film qui n'est pas fait par une réalisatrice. J'ai d'ailleurs oublié le nom du réalisateur, c'est horrible. Il s'agit d'un film italien qui s'appelle L'America, qui est il est intéressant. C'est à la fois le rapport entre l'Italie, l'Albanie, à la fois ce voyage dans les ex-pays de l'Est, le sous-développement en Europe, la manière avec laquelle se précipitent les industriels dans ces pays, mais en même temps... alors on voit cette Albanie complètement défaite, délabrée, dissociée en quelque sorte, parce que tous les réseaux sociaux, tous les réseaux de travail, tout est déglingué en même temps que les pays, les maisons, le paysage. Et puis là-dedans, il y a une espèce de voyage un peu initiatique d'un jeune Italien qui va tout perdre peu à peu. Est-ce qu'à la fin, il redevient vraiment un être humain ? C'est la question que pose le film. Moi, j'ai bien aimé. Je vous le conseille. L'America, c'est la strada. Je sais que le réalisateur a fait le voleur d'enfants, mais je ne me souviens plus du tout le nom du réalisateur.
Et je ne peux pas t'aider, je suis désolée. Alors voilà, chers auditrices, je crois que vous avez de quoi faire pour les soirées d'hiver grelottantes ou pluvieuses comme ce soir. Et malheureusement, j'espère que si ce soir la lune n'était pas dans le ciel, mais va être dans vos oreilles dans quelques instants, vous l'avez peut-être vue monter hier soir, elle était si belle, elle inondait le ciel. Et j'espère qu'elle inondera vos oreilles ce soir. En tout cas, je leur passe tout de suite la parole.
Wenn ich renne, dann fall ich hin. Wenn ich schleiche, wird's ganz schlimm. Will ich fliegen, stürze ich ab. Lève-toi, ma sœur malade, crie le mal dans l'univers. Lève-toi.
Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent, ce sera tout à fait comme à la radio.
Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, Onde Femmes Radio Zone. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, le 5040 51 41 023 depuis Genève, 033 depuis, je ne sais pas moi, depuis Vevey, pourquoi pas. Et puis notre adresse, Onde Femmes sur Radio Zone, 7 boulevard Karl Vogt, 1205 Genève. Dans quelques instants, nos nouvelles et puis Marjolaine qui a un gros tas de coups de cœur dans sa besace. Non ?
Eh ben non, j'en ai pas tellement, mais ce sont des coups de cœur de qualité.
À tout de suite alors pour nos nouvelles. Radio Pleine Lune 93.8 MHz, Onde Femmes Radio Zone, nos nouvelles. Vous vous souvenez, au début novembre, Super Phoenix s'était arrêté, il y avait une fuite d'argon. Eh bien, c'est la suite de la fuite, si on peut dire, à tel point qu'on peut annoncer Super Phoenix, fuite et fin bis. On sait donc de sources inofficielles la vérité sur le dernier arrêt de Superphénix. Une nouvelle irrégularité dans la gestion de la sécurité à Malleville. Il semblerait que lors de l'arrêt de cet automne, provoqué par une fuite d'argon, les responsables se soient rendus compte que cette fuite était difficilement réparable. Mais comme ils étaient face à un dilemme financier, puisque si la centrale ne fonctionnait pas en fin 1994, les localités situées autour de la centrale n'auraient pas pu toucher la taxe professionnelle. Ouh là là, grave. La solution d'EDF, faire fonctionner la centrale avec la fuite, assez longtemps pour la raccorder au réseau, pendant en tout cas quelques jours, et pouvoir ainsi verser la taxe professionnelle, quitte à l'arrêter dès le 25 décembre. La panne actuellement risque d'être longue, on parle d'un arrêt de plus de 6 mois, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Notre dossier pour les marchands d'armes, tout va bien. Après la guerre, voici le maintien de la paix. Mais à la paix comme à la guerre, tout est bon pour les affaires. Le militaire rejoint aujourd'hui l'humanitaire. Aux quatre coins du monde, sous l'œil empressé des caméras de télévision, on ne joue pas seulement à la guerre, on joue à la paix. Et sur ce terrain, armées et organisations non gouvernementales rivalisent, souvent s'associent. C'est ainsi qu'on l'aura vu l'an dernier, les marines américains débarquaient à Haïti pour une mission de, je cite, « sécurité civile ». On aura aussi vu l'opération turquoise des Français au sud de Rwanda, qui se voulait humanitaire et seulement humanitaire. À l'inverse, les organisations non gouvernementales, les ONG, engagées dans des conflits complexes, recherchent de plus en plus le soutien logistique des bataillons de l'ONU, voire même de l'OTAN. Mieux, ces organisations achètent du matériel pour assurer la protection de leurs volontaires. Le militaro-humanitaire représente un marché en pleine expansion. Les fabricants d'armes l'ont déjà compris et ont organisé un grand salon, le Peacekeeping, un salon où se côtoient ex-marchands de mort et professionnels de l'assistance. Quand je dis ex, on pourrait dire toujours actuels marchands puisqu'ils continuent à vendre des armes. Peacekeeping 94 est donc dédié à tous les militaires et à tous les membres d'organisations humanitaires morts pour la paix in memoriam. Ce texte a été placardé aux côtés de l'entrée du hall d'exposition. Une nouvelle industrie est donc en train de naître. Ce salon a eu lieu à Washington. L'industrie, c'est donc l'industrie du maintien de la paix. Même si la plupart d'entre les militaires ou des représentants des entreprises ont davantage l'habitude de vanter leur Kaamelott lors de différents salons internationaux de l'armement, ils ont l'air tout à fait bien à ce salon de Peacekeeping 94. Parmi les acheteurs, bon nombre portent l'uniforme. La plupart, originaires de pays du tiers-monde, sont attachés d'ambassade à Washington. Ils admirent des véhicules tout-terrain, des véhicules blindés, mais également ils peuvent s'entraîner au maniement d'un fusil d'assaut. Ils passent en revue toute une gamme de menottes et autres accessoires propres à immobiliser l'adversaire et à maintenir la paix. À côté, quelques stands de la Croix-Rouge américaine, de Interchurch Medical Assistance et d'autres organisations non gouvernementales comme Interaction, un groupement de 160 organisations non gouvernementales d'aide et de développement. La coopération entre les ONG et l'armée est une réalité. Des représentants d'Interaction et des différentes ONG travaillent en étroite collaboration avec les militaires dans le cadre d'un nouvel institut pour le maintien de la paix dans le Army War College, une école de guerre de l'armée de terre de Pennsylvanie. Ils cherchent à définir les nouveaux moyens de renforcer les liens entre les ONG et l'armée dans le cadre des prochaines opérations de maintien de la paix. Ils participent également à l'organisation de jeux pacifiques en Louisiane. Lors de ces exercices militaires, les soldats sont face à des obstacles tels que des centres alimentaires pour réfugiés, des adolescents armés et des journalistes arrogants. Il faut bien se préparer. Bienvenue donc dans le monde des associations humanitaires combattantes et des militaires humanitaires. Peacekeeping a remplacé un salon d'armement appelé ArmX qui avait lieu au Canada, qui avait pour but de promouvoir les ventes d'armes canadiennes et attirait malheureusement pour eux régulièrement des militants pacifistes qui venaient perturber le bon déroulement du salon. Ils ont donc décidé de se transformer. ArmX s'est transformé en Peacekeeping 93. C'était pas mal comme opération. Le phénomène qui semble nouveau est en réalité assez vieux, puisque cela fait des années que les ONG et les militaires voient leurs relations évoluer depuis longtemps et néanmoins avec discrétion. Washington considère la plupart des ONG américaines comme des instruments de sa politique étrangère, au même titre que l'armée ou les marines. Des organisations comme CARE ou Save the Children ont travaillé en qualité de sous-traitants du gouvernement américain, financés en grande partie par l'Agence américaine pour le développement international, se rendant là où celle-ci le désirait et dans les peuples et les pays que Washington voulait aider. Les généraux et les fonctionnaires de l'armée semblent avoir compris que l'avenir de la machine de guerre repose sur les opérations de maintien de la paix dans des zones où les États-Unis n'ont pas un intérêt stratégique flagrant. Sachant que le monde entier consacre des milliards de dollars aux opérations de maintien de la paix, les armées prêtes à louer leurs services sont pléthores et il existe des tas de solutions permettant, par exemple, d'éviter de faire appel à l'ONU. Ce qui caractérise les opérations de maintien de la paix par rapport à la guerre, c'est que l'ennemi est moins clair. L'ennemi, cette fois-ci, c'est le chaos. C'est là que réside la clé de l'industrie du maintien de la paix. Dans un conflit, une fois identifié l'agresseur et la victime, il devient impératif de prendre parti. On doit choisir pour l'un ou pour l'autre. Et à ce moment-là, le maintien de la paix n'est pas tout à fait moral. On pouvait penser qu'en 1940, il fallait vraiment faire la guerre aux nazis et pas maintenir la paix. Tandis que dans l'univers moral du professionnel du maintien de la paix, les ennemis, c'est la guerre, c'est le chaos, c'est tous les à côté pénibles comme la famine. Fini les moments d'angoisse passés à se demander qui a raison. N'importe quelle guerre peut éventuellement faire l'objet d'une opération de maintien de la paix. C'est parfait. Belle réconversion qui permet de clore le salon sur ces mots. Pour les gens de mon âge, l'expression « marchand de mort » fait partie du langage courant. Les marchands de mort étaient bien sûr les fabricants et les trafiquants d'armes. Vous représentez cette exposition, représente une génération nouvelle et beaucoup plus importante, les marchands de la paix. La prochaine génération de fusils d'assaut automatiques pourrait bien être mise en vente avec le slogan « Plus jamais ça ».
Charge him.